Avertissement.
Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée.
Vous êtes la masse critique. La masse critique.
On ne peut pas réformer le système de l'intérieur, c'est allé beaucoup trop loin. Les crimes ont-ils été commis? Évidemment que oui. J'ai envie de dire de nombreux crimes très graves. On pourrait dire que finalement, le système de justice, c'est peut-être juste une illusion de justice. C'est un constat qui me fait très mal au cœur, je vous l'avoue.
Vous écoutez Radio Masse Critique.
On reçoit aujourd'hui Louis-Olivier Fontaine, un avocat qui a donné sa démission du barreau du Québec, auquel il a adressé le 22 avril dernier une lettre ouverte pour s'en expliquer publiquement. Je cite un extrait. « Pendant cette période, celle des événements qui se sont produits depuis 2020, j'ai vu un récit trompeur être présenté à une population en état de choc comme étant une vérité qu'on ne peut remettre en question. » Aujourd'hui, ce récit impliquant l'existence d'une menace grave à la santé de la population est devenu une connaissance judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être contesté devant les tribunaux. Ainsi donc, sans qu'aucun débat n'ait eu lieu, contre toute logique et simplement parce qu'il a été répété ad nauseam, un récit frauduleux est devenu une vérité absolue. Je dis « frauduleux » en pesant mes mots, parce que c'est exactement ce dont il s'agit, la menace alléguée n'ayant été qu'un prétexte pour opérer des changements profonds et probablement irréversibles dans la société, accompagnés d'un transfert massif de richesses vers les classes dominantes. Et je ne peux passer sous silence le fait que la menace imaginaire a aussi servi de justification au déploiement d'injections dites « sûres et efficaces » qui se sont en toute probabilité liées à la surmortalité qui est observée actuellement au Canada et ailleurs. » Fin de citation. Il ressort encore de ta lettre qu'aucun mécanisme n'a pu protéger la population contre la violation de ses droits et libertés fondamentaux, que la division du pouvoir, exécutif, législatif, judiciaire et médiatique est une illusion, tout comme le fait que nous serions en démocratie. Dans ces conditions, il est donc impossible pour un avocat de défendre utilement les personnes qui contredisent le récit dominant contre un pouvoir qui les muselle, les censure et les harcèle. Fait que ça...
Salut.
Oui, salut.
Bonjour, messieurs. Merci de me recevoir après un long intermède. Donc, je suis très content d'être parmi vous encore une fois.
Nous aussi, on est contents de te recevoir.
Et je tiens peut-être à souligner le fait, si vous me permettez, vous vous souvenez, il y a maintenant 2 ans, là, presque jour pour jour, vous receviez là, ma collègue Maître Chantal Collard et moi à la Bonne Franquette avec l'enregistreuse chez ma collègue Chantal pour ce qui était à ce moment-là ma première entrevue, peut-être même à vie. Je suis très honoré d'avoir été, d'avoir passé chez vous en premier. Et vous aviez fait un excellent travail là, pour la diffusion, le montage de tout ça. J'avais particulièrement apprécié le montage avec la chanson de Queen, Under Pressure. C'était tout à fait approprié. Les paroles, d'ailleurs, j'invite les gens à aller lire les paroles, ceux qui n'auraient pas lu les paroles, qui étaient tout à fait appropriées. Donc, un très bon choix musical et une entrevue qui avait été très agréable. Donc, je suis extrêmement content d'être avec vous à nouveau. Bon, dans des circonstances un peu particulières, mais on va essayer de s'expliquer.
Bien, merci. Puis, juste un petit détail, justement, à cette entrevue-là, je me rappelle que déjà, tu lançais un appel aux avocats, puis aux gens qui travaillaient dans le système de justice à parler, à dire ce qui se passe.
Ce qui, finalement, de toute évidence, n'a pas eu lieu.
Et de toute évidence, cet appel-là n'a pas été entendu.
Oui, effectivement. Il y a des avocats qui ont pris la parole. Hein. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait faite, la conférence de presse qu'on avait... En fait, je dis conférence de presse, c'était plutôt une conférence publique là, avec des invités. La presse... on avait déjà compris à ce moment-là que la presse n'allait même pas se déplacer. Donc, si ma mémoire est bonne, je n'étais pas parmi les organisateurs. Je crois qu'ils n'avaient même pas été invités pour cette conférence-là, parce qu'on avait déjà compris, on était au mois de novembre 2021, on avait déjà compris le modus operandi de la presse. Donc, s'ils prennent la peine de se déplacer, c'est pour nous salir. Mais généralement, maintenant, ils prennent même plus la peine de se déplacer. Ils font leur salissage sans même poser de questions, sans même interroger. En fait, ils ne font même pas le travail qu'un journaliste digne de ce nom-là devrait faire, c'est-à-dire de contacter la personne ou les personnes et de leur dire, écoutez, on voit que vous avez fait une conférence, on aimerait discuter avec vous de tel ou tel point. Ils ne se donnent même plus la peine de faire ça. Donc, récemment, il y avait un article abominable dans le Journal de Montréal au sujet d'un de mes anciens clients, l'infirmier auxiliaire Sébastien Cormier. Je lui ai parlé récemment, il m'a confirmé qu'on n'a pas cherché à avoir sa version des faits. Et l'article est un tissu de mensonges. Donc, c'est vraiment désolant ce qu'on voit au niveau des médias, mais ça, ça fait longtemps que ça dure. Donc, si je peux continuer ma réponse par rapport aux avocats. Donc, il y en a certains qui ont pris la parole, il y en a qui ont représenté des clients dans certains dossiers. Les dossiers ont tous échoué, là, quelques exemples, peut-être des exceptions très, très mineures, là, ici et là. Mais en gros, là, les efforts des avocats dans les dossiers judiciaires, ça n'a pas porté ses fruits. Puis en ce qui concerne le message que j'adressais peut-être là à mes collègues de prendre la parole, ben ça non plus, ça n'a pas été entendu ou ça n'a pas donné de suite vraiment parce qu'on n'a pas vu vraiment d'avocats prendre la parole. Donc je suis d'accord avec vous.
Le même phénomène s'est observé aussi au niveau des médecins. Nous, quand il y a eu la lettre, on avait fait une entrevue sur la lettre ouverte au Collège des médecins. C'est là qu'on s'est mis à être shadowban sur Facebook. Mais on appelait aux médecins à parler et à se positionner par rapport à la vaccination des enfants. Puis il y en a eu qui sont présentés, mais c'est ça. C'est très marginal. C'est sûr qui se lèvent et qui osent parler, que ce soit en science aussi, avec Patrick Provost, c'est des gens qui ont des raisons morales. Qui sont supérieurs probablement aux autres raisons. Mais en tout cas, c'est minime. C'est très marginal. Voilà, c'est mon observation.
Fait que là, on pourrait entrer, et là, évidemment, on va regarder les termes juridiques. Je pense qu'on va regarder ce que ça signifie. Fait que là, je vais moi, ma question, premier thème que j'aborderai, c'est quelle est la signification et la portée de l'expression « connaissance judiciaire », qui est quand même assez étrange, « connaissance et judiciaire ensemble ». Pour le contexte, on a le jugement rendu par la Cour supérieure, par le président, sous la présidence du juge Michel Pinsonneau. Fait qu'on a, là je cite, « Or, de façon générale, il est connaissance judiciaire qu'une pandémie liée à la COVID-19 sévit depuis mars 2020 et on ne saurait sérieusement contester l'existence d'une menace à la santé de la population assez grave pour justifier un état d'urgence sanitaire. Fait que moi, ce que je constate d'entrée de jeu, c'est un vice de raisonnement. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Comme il y a eu un état d'urgence sanitaire, il y a forcément une pandémie. Si, tu vois, c'est une espèce de... Et évidemment, l'une ne prouve pas l'autre. Donc, ensuite, le juge en rajoute, il dit « La notoriété de ces faits en rend l'existence raisonnablement incontestable. » Et là, pour confirmer le sophisme, le juge réfère à un article de loi au sens de l'article 2806. Là, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie tout ça, parce que il n'y a aucune démonstration, il n'y a rien, il n'y a aucun fait qui est amené. On dit tout simplement un espèce de sophisme dans lequel on dit, ben, s'il y a eu un état d'urgence, il devait y avoir forcément un problème.
Je suis vraiment content que vous me posiez cette question-là. C'est quelque chose que qui est extrêmement important, puis vous me donnez l'opportunité de l'expliquer à nouveau. Donc, à nouveau, en fait, peut-être pour la première fois. Donc, C'est une excellente question. Je vois que vous avez fait vos devoirs. Vous êtes allé voir les références. Donc, je suis très content de pouvoir, d'avoir l'occasion de répondre à cette question-là. D'ailleurs, en parenthèse, c'était un des sujets d'une conférence, publique que j'ai donnée avec le groupe de Réinfo Québec l'été passé, au mois de juillet 2023, au domaine de Mézeray à Québec. Cette conférence-là, j'espère qu'elle va être mise en ligne bientôt. Pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, mais la question que vous me posez me confirme que c'est toujours un sujet d'actualité. Donc, dans cette conférence-là, qui j'espère sera diffusée sous peu, j'explique ce que c'est que la connaissance judiciaire et je fais une critique un peu de cette décision-là là, du juge Pinsonneau de la Cour supérieure du Québec, dans le dossier, là, c'est le dossier de Lily Monnier contre le procureur général du Québec, dossier qu'elle a repris, là, le dossier qui était là, auparavant le dossier de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Dossier, parenthèse dans la parenthèse, dans lequel j'ai été impliqué à ses débuts, là, alors que je travaillais avec l'avocat Dominique Desjarlais, qui à l'époque était responsable du dossier. Donc moi, j'ai été impliqué dans ce dossier-là brièvement, là, plus à titre de recherchiste, donc j'étais pas l'avocat en charge du dossier, là. C'était Maître Desjarlais. Donc au printemps 2021, là, pendant quelques mois, j'ai travaillé là, surtout comme recherchiste là, dans le cadre de ce pourvoi-là. Donc je le connais très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la connaissance judiciaire? La connaissance judiciaire, en effet, là, c'est un concept en droit de la preuve qu'on apprend hein, peut-être en deuxième année, si je me souviens bien, au bac en droit. On apprend les différentes règles de preuve. Donc, on peut prouver un fait de différentes manières. On peut le prouver par un témoignage. On peut prouver un fait par même une preuve matérielle. Donc, on peut apporter littéralement devant le tribunal un élément matériel. Prenons par exemple un couteau qui aurait servi à un crime.
Une pièce à conviction.
Une pièce à conviction, c'est ça. C'est un élément matériel de preuve, comme on appelle en droit de la preuve, ou une pièce à conviction, là. Bon exemple.
Un examen scientifique, de l'ADN, etc., des preuves scientifiques, etc.
Oui, c'est ça. Une preuve scientifique, ce serait ce qu'on appelle techniquement un témoignage d'expert. Donc, l'expert, lui, est habilité à témoigner sur des faits là, qui sont de nature technique ou scientifique. Donc, c'est un autre très bon exemple. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que la connaissance judiciaire? La connaissance judiciaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas à prouver devant les tribunaux. La règle générale étant qu'on doit prouver ce qu'on allègue devant les tribunaux, l'exception étant, notamment, il y en a peut-être d'autres, mais notamment la connaissance judiciaire. Alors, la connaissance judiciaire, c'est un fait qui est tellement notoire, puis là, on pourrait lire l'article du Code civil là, que j'ai pas sous la main, mais c'est un fait qui est tellement notoire, que tout le monde connaît, que c'est pas nécessaire, finalement, de le prouver devant les tribunaux. OK? Vous voyez où je m'en viens, là?
Oui.
Le ciel est bleu, la terre est ronde. Bon, quoique là, il pourrait y avoir des débats, mais... Et c'est ça. Donc, des choses là, d'une évidence telle que c'est pas nécessaire de l'éprouver devant un tribunal. Mais là, d'un autre côté, le corollaire à ça, c'est que si c'est tellement évident qu'on doit pas le prouver, ben, à mon avis, c'est que là, ça devient compliqué de le contester. Ben, d'ailleurs, c'est ce que le juge écrit dans sa décision. On ne saurait sérieusement contester l'existence d'une menace grave à la santé de la population due à une pandémie mondiale de COVID-19. Bon. Donc, c'est ça la connaissance judiciaire. C'est un fait dont l'existence là, est tellement notoire qu'on ne peut pas la contester. Et moi, je pense que c'est pas anodin que le juge ait écrit ça dans sa décision. Parce que la question qui était posée devant lui, c'était pas la pandémie est-elle de connaissance judiciaire, oui ou non. C'était une demande en rejet qui avait été déposée par le procureur général du Québec, toujours dans le dossier de Mme Lily Monnier, pour le faire rejeter sommairement, sans qu'il y ait aucun débat, hein, donc un rejet sommaire. Et la raison pour laquelle le procureur général demandait le rejet sommaire, c'était que les faits, le débat était devenu théorique. C'est-à-dire que les décrets qui étaient en vigueur pendant la supposée urgence sanitaire, maintenant ont été abrogés. L'urgence sanitaire qui a duré je ne sais plus combien de mois, là, est maintenant terminée. Donc, tout ça est théorique. Alors, on ne va pas dépenser, et il en parle d'ailleurs dans son jugement, on ne va pas dépenser des ressources limitées de notre système pour faire des débats comme ça qui sont purement théoriques. Donc, si vous me demandez mon avis, il est venu vraiment fermer la porte en disant que tout ça était de connaissance judiciaire. Donc maintenant, la porte est fermée. Puis l'aspect sophisme que tu mentionnes, Stéphane, c'est intéressant. Parce que oui, le gouvernement, l'exécutif, hein, déclare une urgence sanitaire au mois de mars 2020, si je me souviens bien. Déclare une urgence sanitaire comme ça, tout simplement une déclaration. Hein. Il déclare. Pourquoi il déclare? Parce que l'OMS l'a déclaré quelques jours auparavant, le 11 mars, je me souviens plus des chiffres exacts, mais des dates exactes, mais c'est ça. Il déclare l'état d'urgence parce que l'OMS l'a déclaré. Et tout ça est basé sur absolument rien, là, quelques cas. Et bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans les détails.
Oui.
Mais voilà, c'est ça, c'est une forme de sophisme. Donc, il y a eu urgence, donc il y a eu une menace grave. Puis écoutez, vous voulez mon avis, il n'y a pas eu d'urgence, il n'y a pas eu de menace grave. Point à la ligne. Et là, tout ça, là, ce que j'appelle, moi, le récit trompeur, est devenu hein, une vérité absolue. C'est absolument formidable. Et il fallait absolument que je le mette dans une lettre.
Est-ce que c'est cet élément-là qui t'a déterminé à démissionner?
Ça a été un des... là, il faut que je me rappelle, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, là, mais ça a été pas mal un des derniers clous dans le cercueil, oui. Puis c'est pour ça que j'avais choisi ça comme sujet de ma conférence à Beauport l'été passé. Pour moi, c'était tellement, tellement important comme décision. Et parce que là, ça voulait dire qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura pas de débat judiciaire bien parce sûr, que là, on va sortir cette décision-là, on va dire c'est de la connaissance judiciaire, c'est réglé, on n'a pas de ressources, on n'a pas de temps à perdre. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai voulu m'impliquer dans des dossiers. Tout ça a servi à rien. Ben, en fait, a servi à rien. Oui, ça a servi peut-être à attirer l'attention d'un certain public, peut-être de vos auditeurs, de vous. Mm-hmm. Mais à part de ça, ça n'a rien changé là, dans la société, en tout cas. Bon, fait que ça a été un clou dans le cercueil. Le clou final, ça a été le dossier du professeur Christian Linard, je crois.
Oui, oui, oui. Mm. Qui a perdu sur toute la ligne, là.
Exactement, que j'avais représenté là, pour les audiences au fond là, devant le conseil de discipline de l'Ordre des chimistes du Québec. Je m'étais dit à ce moment-là, je m'en souviens, je m'étais dit, OK, je vais prendre ce dossier-là. Déjà là, la confiance était très réduite, ma confiance dans le système. Mais je me suis dit, ce dossier-là, c'est un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, un professeur universitaire, aucun antécédent, au contraire, des médailles, des honneurs qu'il a reçus tout au long de sa carrière, là, brillante, apprécié de ses élèves, apprécié de ses collègues. Donc, je me suis dit, je vais prendre ce dossier-là et je vais plaider la liberté universitaire, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne rentrera pas dans le débat scientifique. Enfin, on va essayer de ne pas rentrer dans le débat scientifique parce que, premièrement, c'est pas la place. Puis deuxièmement, ils ne voudront jamais entendre des arguments scientifiques. Donc, on avait choisi de ne pas engager d'experts et d'y aller vraiment sur la liberté académique, la liberté universitaire, c'est la même chose, la liberté d'expression, d'opinion, et ça a été un échec total. Donc ça a été pas mal le clou dans le cercueil. Puis tiens, il y a pas mal de clous dans mon cercueil. quand j'étais sur le point de prendre ma décision de démissionner, puis je commençais à rédiger ma lettre, je suis allé voir là, par hasard, mais pas par hasard, mais je suis allé voir s'il n'y avait pas eu des décisions récentes. Et là, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, c'est ça, il venait de sortir Sébastien Cormier, l'infirmier auxiliaire, donc aussi coupable de 4 chefs d'accusation sur 4. Donc, un autre coup de circuit, là, coupable surtout. C'est absolument épouvantable. Et quand je lis la décision, tous les raccourcis qui sont faits, c'est vraiment terrible. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai pris la bonne décision. Et en fait, en démissionnant, je vais peut-être avoir plus d'effet, plus d'impact que j'aurais pu avoir dans ma profession pendant encore des années. Donc, c'est ça, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Oui, celui-là, là, la décision du juge Pinsonneau, ça a été un gros coup dur. Oui, tout à fait.
Puis aussi le fait que, évidemment, tant que tu es dans la profession, ben, tu peux pas... Tu dois restreindre ton discours jusqu'à un certain point.
Est-ce que tu as souffert
de ça durant tout le processus? Parce qu'au fond, il a fallu toujours que tu... que tu limites ton discours, que tu restes à l'intérieur de... Parce qu'on avisait les avocats hein, qu'il fallait faire attention, hein, comme tu disais, je pense, en entrevue à un moment donné, soyez prudent de ce que vous affirmez, de ce que vous dites publiquement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, quand je me prononçais, par exemple, là, j'ai donné aussi une conférence à Saint-Joseph-de-Beauce, là, aussi l'été passé, c'était au mois de juillet, j'en avais fait deux, là, à deux semaines d'intervalle. Celle-là est disponible pour ceux qui voudront aller la voir là, sur le YouTube de Réinfo Québec, auparavant Réinfo COVID. Donc, je vous invite à aller voir ça aussi. Donc là, je parle plus en détail là, du dossier du professeur Christian Linard. Et là, évidemment, là, je fais des mises en garde. Je dis, ben j'ai le devoir de respecter l'autorité des tribunaux. On a bon espoir que nos arguments seront entendus et qu'on aura réussi à convaincre le conseil de discipline. Mais je vous avoue que quand j'ai reçu la décision, là, coupable de 11 chefs d'accusation sur 11...
C'était une vraie farce.
Ça m'a fait très mal au cœur. Et là, je me suis dit, bon, OK. Après ça, j'ai laissé passer quand même plusieurs mois. Là. Quand le moment est venu de payer mes cotisations, je me suis dit, non, je n'envoie pas 2 500, 3 000 $ au barreau du Québec, c'est pas vrai. Donc, la décision était en train de mûrir depuis plusieurs mois. Et là, je me suis dit, non, là, c'est le temps de claquer la porte.
Oui, parce que là, on parle de personnalités, de scientifiques, de professeurs, dont la crédibilité est incontestable. Les Provost, les Linard, les Perronnes, en France, on le sait, là, cette pression-là, c'est partout. Hein, c'est... Donc, ils ne questionnent jamais le fond de la question, justement, à cause que les tribunaux, maintenant, ont verrouillé. Avant, ils rejetaient sous prétexte d'un consensus scientifique. Puis là, ben maintenant, il semble que la question ne se pose plus. On rejette dès l'entrée de la question, c'est rejeté, c'est terminé. Ah ben
justement, une de mes questions, c'était est-ce qu'on est face à véritablement un verrouillage de tout le système judiciaire? Est-ce qu'on est vraiment face à ça maintenant?
Est-ce que c'est Québec et Canada ou juste... Le Québec?
Ah, c'est Québec, c'est Canada, c'est mondial, là.
OK, mais pour ce verrouillage-là,
pour
tu veux dire?
Pour la connaissance judiciaire, parce que ça tourne autour de la connaissance judiciaire, donc c'est comme un élément de verrouillage. Est-ce que cet élément de verrouillage-là est déterminant au point qu'on peut dire que tout le système juridique est verrouillé par rapport à la question de ce qui s'est passé durant la crise et des conséquences de la crise?
En tout cas, de discuter du fond de la question, hein? D'aller directement au fait.
Ben écoutez, si on prend le concept précis de connaissance judiciaire, là, j'ai pas fait la recherche, puis honnêtement, ça, je la ferai sûrement pas parce que ça m'intéresse plus, mais je crois que dans la référence en bas de page, là, dans la décision dont vous avez lu un extrait, ils vont nous dire là, qu'il y a plusieurs décisions où ce concept-là a été utilisé. Okay. Donc, je suis pas mal certain que ça a été utilisé dans d'autres provinces canadiennes. Il y a certainement des concepts semblables dans les autres juridictions, dans les autres systèmes de droit, mais j'ai pas fait cette recherche-là. Mais, okay. mais même si c'était pas la connaissance judiciaire, ils vont trouver un autre argument en apparence rationnel. Mais c'est ça la beauté de la chose, hein, vous savez, c'est qu'on d'utiliser des arguments qui en apparence sont rationnels, puis on nous dit hein, l'utilisation rationnelle des ressources. Alors que tout ce qu'on fait, c'est de verrouiller toutes les portes puis d'empêcher le débat. Donc, si vous voulez mon avis, c'est la même chose partout dans le monde.
Okay. Cet exemple-là, justement, on n'a pas de ressources pour ça, alors qu'il a été dépensé des milliards durant la crise sanitaire. Il a été dépensé des milliards et des milliards comme jamais auparavant. Et là, on nous amène l'argument, on n'a pas de ressources pour...
Oui, évidemment que c'est absurde.
Des choses inutiles.
Ben oui.
Oui, évidemment que c'est absurde. Alors qu'on les médias dominants nous apprennent hein, que des millions de dollars ou des centaines de millions de dollars, je sais plus, de vaccins sont jetés à la poubelle. Ce qui est une bonne chose à mon avis. donc, vaut mieux les jeter à la poubelle que de les injecter.
C'est un investissement.
C'est ça, exactement. Mais non, évidemment que cet argument-là est complètement absurde. Et je veux dire, en ce qui concerne les ressources, là, ça a le dos large, cet argument-là, mais les ressources, notre société est pleine de ressources. Donc, c'est simplement, on peut mettre des ressources où on le souhaite. C'est juste qu'il y a des choix politiques, des choix de société qui sont faits de dire, OK, le système de justice, il n'y a plus de ressources. Mais supposons qu'on voulait avoir un système de justice efficace. On mettrait les ressources, on s'assurerait qu'il y a de l'indépendance, mais c'est visiblement pas le cas.
Est-ce que tu avais un commentaire?
Ben oui, il y avait juste... c'est pas vraiment important, en fait, le sujet est passé, mais c'est ce que tu dis quand tu fais la conférence à propos des arguments sur Christian Linard, tu as mis la référence dans ta lettre. C'est celle de Saint-Joseph de Beauce du 3 juillet, c'est ça?
Oui, effectivement, ça c'est la vidéo, oui, c'est la référence dans ma lettre, exactement.
Exactement. Si les gens veulent aller voir.
Puis aller voir la lettre, il y a toutes les références en bas. Le travail a été fait.
Oui, puis tiens, Justin, je pense que je n'ai pas répondu complètement à ta question, là, si tu me permets. Tu me demandais est-ce que ma liberté d'expression était limitée avant que je démissionne, tout ça. Ben, je dirais que
c'est Stéphane.
Ah, Stéphane. Excuse-moi. Oui, Stéphane. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis jamais gêné de dire ce que je pensais. Donc, déjà, là, si vous retournez à ma conférence de 2021 avec Rinfo, je disais des choses quand même très, 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 très puissantes, là, à mon avis.
Ouais,
donc, je me suis jamais vraiment gêné. Je me suis toujours gardé une gêne par contre, par rapport à l'autorité des tribunaux. Donc, ça, je me suis toujours gardé une gêne. Et là, maintenant, je me gêne plus. Donc, je le dis ouvertement, l'autorité des tribunaux, si vous voulez y croire, tant mieux pour vous. Mais en ce qui me concerne.
Et comment tu la définirais, l'autorité des tribunaux?
Pourquoi j'ai écrit l'autorité des tribunaux, c'est que c'est comme ça qu'on l'écrit dans le code de déontologie des avocats. Donc, l'avocat doit soutenir l'autorité des tribunaux. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. C'est vraiment pris littéralement de notre code de déontologie. Mais ça, ce que ça veut dire, de respecter l'autorité ou de soutenir l'autorité des tribunaux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contester les décisions des tribunaux. Donc, tout avocat peut... puis à mon avis, c'est même son devoir, de contester, de critiquer des décisions qu'il juge mal motivées, mal fondées. Donc ça, on peut le faire, là, tout à fait. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est avocat et que maintenant je peux faire, c'est de dire, ah ben non, moi je ne soutiens plus leur autorité en général, c'est-à-dire que je ne crois plus en l'institution. Et ça, maintenant, je peux le dire, je ne pouvais pas le dire avant.
OK.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est ça, ce qui légitime l'autorité des tribunaux, c'est qu'il y a une procédure, quand on n'est pas d'accord avec une décision, pour faire un appel, pour faire changer la décision. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un domaine où c'est bloqué, on ne peut plus remettre en question les décisions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le système judiciaire? Si le système judiciaire n'est pas capable de reconnaître la vérité et de faire valoir la justice, où on s'en va? C'est dangereux, mais comme précédent. Parce que si on réalise que la justice, en fait, elle défend les intérêts d'on ne sait pas qui, mais elle ne défend pas la vérité. Elle va empêcher la vérité de sortir. C'est dangereux en termes sociaux, comme société. On dit, notre système judiciaire ne peut plus faire valoir la vérité.
C'est quoi, en fait, il n'y a pratiquement plus aucune utilité au système judiciaire, là, pratiquement, pour les gens, pour les crimes banaux, les crimes pour les gens qui travaillent, c'est pour ceux qui ne font pas partie de l'élite, etc. Ah ben là, il y a une justice, hein, t'as fait ça, on va te punir sévèrement. Maintenant, quand il y a question de l'élite, quand il y a question de ceux qui prennent des décisions pour des motivations vraiment... très étrange, souvent pour l'argent, etc., et leur crime reste impuni. Là. Donc, quelle est l'utilité du système? En fait, est-ce qu'on n'est pas en face de quelque chose qui est très révélateur ici, là, sur l'ensemble de tout le système judiciaire?
Je pense que oui. Je pense qu'on est devant quelque chose d'extrêmement révélateur, oui. Et comme je l'écris dans ma lettre... c'est ça, ils sont tous, en fait, ils sont tous au service de quelque chose que moi j'appelle la finance. La finance avec un grand F, là. La finance, les banques, le système monétaire, la finance internationale. Donc, moi, je pense que c'est ça. Ils sont au service de ça. Puis la finance, là-dedans, j'inclus évidemment les multinationales pharmaceutiques, des télécommunications, de l'Internet. Donc, on se rend compte que les remparts qui existaient, peut-être, peut-être qu'ils n'ont jamais existé, peut-être que ça a toujours été une illusion, mais la fameuse séparation des pouvoirs, où on pouvait se dire, ben là, si le pouvoir, par exemple, exécutif commence à faire n'importe quoi, à l'époque, c'était le roi, hein, si le roi commence à faire n'importe quoi, ça, c'est l'origine du pouvoir de contrôle judiciaire de l'action gouvernementale. Donc c'est ça l'origine. Ça nous vient de l'Angleterre, là, si je me trompe pas. Ça vient du ou de la common law, selon. Ça nous vient de là. Donc il y avait, en tout cas, il était supposé d'y avoir ce contrôle-là du gouvernement ou du roi par les tribunaux. Et là on voit que non, ça n'existe plus. Même chose, le pouvoir médiatique. On pensait que le pouvoir médiatique pouvait fournir aux citoyens les deux côtés de la médaille. Et là, on se rend compte qu'absolument pas. Ils martèlent. Tout ce qu'ils font, c'est de marteler un récit, un récit officiel qui est absolument faux. Et ils le répètent sous toutes les formes, sous toutes les tribunes, sans aucun discours alternatif. C'est très triste. Et finalement, si on voulait être extrêmement cynique, on pourrait dire que finalement, le système de justice, c'est peut-être juste une illusion aussi, une illusion de justice. Donc, si vous avez un problème avec votre garagiste, ben, vous pouvez aller aux petites créances, puis on va peut-être vous donner raison dans 2 ans. Donc, une espèce d'apparence de justice, là, si on est patient. Mais ce dont on se rend compte, puis je suis pas content de me rendre compte de ça, hein, ça me fait mal au cœur, mais c'est de se rendre compte que dès qu'un sujet est politique, dès qu'un sujet touche au vrai pouvoir, et ben là, tout le monde, tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, médiatiques, tout le monde marche in lockstep, comme ils disent en anglais, là, tout le monde marche au pas.
Au pas.
Tout le monde marche au pas, tout le monde va dans la même direction. C'est un constat qui me fait très mal au cœur.
Je suis. Ça rappelle aussi l'expérience de Milgram en 63, où tant que l'autorité n'est pas contestée, tant qu'il n'y a pas de débat, les cobayes humains qui punissent ont tendance à aller jusqu'au bout du processus. Jusqu'à 450 volts. Puis dès que ce pouvoir-là, dès que ça, ce narratif-là est contesté, là, le cobaye commence à se poser des questions. Fait que d'une certaine façon, c'est peut-être ce qu'on vit, c'est certainement même ce qu'on vit présentement, c'est-à-dire que ce pouvoir-là dont tu parles, il doit absolument faire taire toute personne qui s'oppose à ce narratif, à ce récit-là.
Est-ce que tu avais été familier, est-ce que tu es familiarisé avec l'expérience de Milgram?
Ben, tout à fait. Encore une fois, je suis content que, je sais pas si vous lisez dans mes, dans mon esprit. Mais oui, c'est un sujet d'ailleurs dont j'ai toujours voulu parler, mais il y a d'autres personnes qui en ont déjà parlé. Mais là, si vous me donnez l'occasion, oui, écoutez, j'ai même lu, je sais pas si vous saviez, mais Stanley Milgram a écrit un livre à la suite de ses expériences qui s'appelle, je crois, là, The Milgram Experiments, ou je ne sais pas quoi. Okay. Mais donc, ce livre-là, qui a été publié là, quelques années après qu'il ait conduit ces expériences-là, je l'ai lu au complet avec beaucoup d'intérêt, donc je connais très bien.
Okay.
Et effectivement, tu as tout à fait raison, Jocelyn. Ah oui, puis en passant, c'est ça, les gens disent l'expérience de Milgram. En fait, c'est les expériences de Milgram.
Oui, tout à fait. Il y en a toute une panoplie, là.
Et je crois que c'est ce que ça dit aussi.
Il y a aussi un film qui est sorti à l'époque où il y a une scène dans laquelle...
I comme Icare,
dans laquelle on voit tout le processus.
Okay.
Ça s'appelle I comme Icare, c'était avec Yves Montand à l'époque.
C'est un vieux film.
Pour ceux qui peuvent retrouver le film, c'est vraiment intéressant de voir.
Parce qu'on voit, on voit que
tous les personnages, comment ça fonctionnait, cette expérience-là.
C'est noté, je note la recommandation. J'ai pas vu le film, mais ce dont je me souviens, après avoir lu le livre de Stanley Milgram, c'est que la première variante, ou en fait, c'était peut-être des expériences de préparatoire, mais lorsque la personne qui recevait les chocs électriques qui étaient donnés par je sais pas comment l'appeler, celui qui était en fait...
qui était chargé en fait de procéder à l'expérimentation pour faire apprendre à l'autre personne un certain nombre de choses.
C'est le cobaye de l'expérience.
De mémoriser un certain nombre de choses.
Exactement.
Lui, c'est lui qui doit obéir ou pas. C'est lui
exactement.
En fait.
Donc, dans les travaux préparatoires, le cobaye qui administre les chocs électriques ne voit pas et n'entend pas la victime, mais la victime qui est un acteur, on se comprend, ne l'entend pas, ne le voit pas. Et là, c'est 100% des cobayes qui vont jusqu'au bout. Et ça, les gens, je crois qu'ils l'ont oublié ou on ne leur a pas dit, mais c'est ce qui s'est passé dans les travaux préparatoires. Donc là, Stanley Milgram, il a modifié son protocole expérimental avec plusieurs variantes où, là, par exemple, on entend la victime, qui est un acteur, comme je vous ai dit, l'entend crier, par exemple. Et donc là, le taux d'obéissance diminue légèrement, mais quand même des taux d'obéissance très élevés.
On parle de 405 volts.
450 volts.
Ça, c'est l'extrême.
Oui, ça, c'est l'extrême.
Et on parle en moyenne à peu près 405 volts.
C'est
une forte décharge, je dirais, 405 volts.
Oui, oui. Et on disait au cobaye...
Ça commence à être très dangereux, là.
C'est ça. Et on disait aux cobayes que c'était les décharges qui pourraient être mortelles. Bon.
Ouais.
Et maintenant, comme tu le disais, Jocelyn, effectivement, dans une des variantes où là, il y a deux personnes en sarrau qui donnent des instructions contradictoires, l'obéissance chute drastiquement.
Drastiquement.
Et ça, les gens qui nous gouvernent le savent. Ils le savent. Ils savent que s'il y avait des gens comme, pour donner des noms, Patrick Prévost, les Français, Christian Perron, etc., ou des avocats qui seraient arrivés avec leur complet, leur cravate, leur toge pour dire « Attendez, il y a des violations à nos droits et libertés, ouais, c'est ouais. injustifié. » l'obéissance, le taux d'obéissance aurait chuté drastiquement et ils ne pouvaient pas se le permettre.
Voilà.
Donc, je suis très content que vous abordiez le sujet.
C'était immédiat, c'était immédiat. Aussitôt qu'il y avait une contradiction des affirmations entre les deux savants qui portaient, qui n'en étaient pas vraiment, mais qui portaient des blouses blanches, s'il y en avait un qui disait « je commence à avoir des doutes, je pense qu'on devrait peut-être arrêter l'expérience. Oh non, moi je pense qu'on doit continuer. » La personne qui infligeait cet apprentissage-là, automatiquement tombait en doute, elle aussi. Elle disait, moi, je ne veux pas être responsable de ça. Là, il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ça, c'est vraiment un élément très, très, très important dans ce qui se passe actuellement. Tant que les voix sont unies, il n'y a pas de changement. Il y a une sorte d'autorité qui est maintenue.
Oui, bien, imaginons un instant, là... Il y aurait des milliers d'exemples, mais prenons les fameuses injections COVID là, qu'on nous a présentées comme étant des vaccins, qui n'en sont pas, évidemment. Là. Il a fallu qu'on change la définition de ce que c'est qu'un vaccin au CDC américain, si je me souviens bien. J'avais vérifié cette référence-là à l'époque. Oui, effectivement, puis là, les fact-checkers pourront faire ce qu'ils veulent, là, mais avec Wayback Machine, on peut retourner voir les... Je l'ai fait, vous devez connaître Wayback Machine, l'outil qui nous permet d'aller voir des versions précédentes d'un site Internet. Donc, j'ai fait la vérification moi-même, j'ai fait mes recherches. Je suis un pro de la recherche. En passant, les avocats, on est des pros de la recherche. Donc, les fact-checkers ne nous disent pas, je suis un pro de la recherche. Effectivement, on a changé la décision, puis pas juste une fois, on l'a changé deux fois. On l'avait changé, je crois, si ma mémoire est bonne, dans le cadre de la pseudo-pandémie de H1N1. On l'a changé à nouveau.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà, voilà. Vous aussi, vous êtes des pros. donc, imaginons un instant qu'à ce moment-là, il y a eu des scientifiques qui soient apparus sur la place publique avec leur sarrau blanc, leur stéthoscope, puis qu'ils aient dit, mais vous savez quoi, ces vaccins-là, c'est pas des vaccins. Ils ont reçu une autorisation d'urgence, mais ils n'ont jamais été approuvé ou homologué, là, je me souviens plus du mot exact, par Santé Canada. Et ça aussi, je l'avais vérifié à l'époque. C'était un fait vérifiable. Eh bien là, les gens ne se seraient pas garochés, comme on dit en bon québécois, vers les centres de vaccination de masse. Ouais. Parce que là, il y aurait eu des voix, il y aurait eu des opinions différentes. Oui. Mais ça ne pouvait pas être permis parce que certaines personnes avaient comme objectif ultime d'injecter tout le monde sur la planète.
Oui.
Pourquoi ils ont fait ça? Dans quel but? Bon, on a des hypothèses. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes.
Donc, on en arrive en fait à ma prochaine question. J'en profiter pour l'introduire. C'est, des crimes ont-ils été commis pendant la crise? Les crimes ont-ils été commis? Vu qu'on est dans un espace judiciaire, je formule ma question comme ça, au fond.
Oui, bien, les crimes ont-ils été commis? Évidemment que oui. Moi, j'ai envie de dire de nombreux crimes. J'ai envie de dire de nombreux crimes très graves. Je sais, je ne me fais pas des amis, là, mais ça va, non, mais je perds des amis, je m'en fais d'autres en même temps. C'est collègue. Ça, tout est changement. Donc, y a-t-il des crimes qui ont été commis? Dans ma lettre, je parle de fraude. La fraude, c'est un crime. Donc, ouvrir un code criminel, le code criminel qui me sert aujourd'hui à soulever mon ordinateur portable pour surélever ma caméra. Donc, dans ce code criminel-là, il est écrit fraude. Puis, on peut aller voir la définition d'une fraude. Évidemment qu'il y a eu de la fraude. Ben oui. Ben oui, parce qu'on nous a menti. Une fraude, c'est ça. Une fraude, c'est de tromper quelqu'un, de mentir à quelqu'un pour atteindre des objectifs, par exemple, pécuniaires, donc lui soutirer de l'argent. C'est une fraude. Une fraude, c'est un concept qui existe en droit, qui n'est pas nouveau. C'est un concept qui est très bien défini. Donc, si on a trompé des gens pour les forcer à poser certains gestes qui les ont appauvris puis qui ont enrichi d'autres personnes, c'est une forme de fraude, à mon avis. Et là, en passant, je ne donne pas un conseil juridique. Là, je n'ai pas le droit de donner de conseil juridique. Mais bon, ouvrez votre code criminel puis un dictionnaire, là, vous allez comprendre.
Ben oui, c'est accessible à tout le monde. Le code criminel est accessible. Je veux dire, on ouvre le livre et on en regarde. Là. Je veux dire, bon, je pense pas qu'il y a de faute de ta part actuellement. Là. c'est pas un secret, comme on dit.
Non, et... Bon, puis, écoutez, j'ai envie de parler...
Par exemple, que les contrats étaient tenus secrets à l'échelle mondiale, les contrats, il n'y avait pas moyen de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur les contrats, et les ententes entre les gouvernements et les pharmaceutiques étaient secrètes. Ça a été révélé que plus tard. Est-ce que ça peut être considéré comme une fraude?
Je me suis pas beaucoup intéressé à ce dossier-là, des contrats, là... Je pense qu'on invoque un secret...
Sécurité
nationale.
Bon, c'est ça. Je pense qu'on utilise différents arguments, pardon, pour ne pas les révéler. Honnêtement, je me suis pas intéressé à ce dossier-là.
En tout cas, on peut suspecter fortement que si on veut pas qu'une chose soit connue, c'est parce que il y a peut-être des choses qu'on voudrait pas qu'on sache.
C'est possible, mais non, c'est ça. Mais honnêtement, je connais pas bien ce dossier-là des contrats.
Continue. Je m'excuse, je t'ai interrompu. Tu allais dire quelque chose.
Il n'y a pas de problème, Stéphane. J'ai envie de parler de surmortalité parce que personne n'en parle. Moi, j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt là, tous les travaux là, du professeur Rancourt et ses associés et ses collègues. J'ai lu tous ses papiers sur le COVID là, et on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une corrélation, en fait, même une causalité entre le déploiement des injections en différentes vagues. Et là, on voit que les courbes fit. Les courbes, là, franchement, là, correspondent très, très bien. On ne peut pas nier ce fait-là. Lui et son équipe ont regardé plusieurs pays dans l'hémisphère sud, partout. On ne peut pas nier ça. Donc, Est-ce qu'il y a des crimes? Ben, évidemment que si, si ces produits-là ont tué des personnes, il y a certainement des crimes qui sont présents. Et c'est des crimes tellement d'une envergure tellement importante que ça donne froid dans le dos juste d'y penser. Hein.
Oui,
absolument.
Surtout est-ce qu'on pourrait parler de crimes contre l'humanité? Je pense qu'on est dans ce territoire-là.
Oui,
je pense que oui.
Ben oui.
Je pense que oui. Et le raisonnement qui vient par la suite, en fait, la question qui vient par la suite et que j'avais formulée justement par rapport à cette réflexion-là. Tu dis, par exemple, le système juridique... la lettre part d'un pourvoi en contrôle judiciaire rejeté par la Cour supérieure et dont l'examen a été refusé en cour d'appel. On peut se demander ici si les juges, les avocats et le système judiciaire n'accomplissent pas leurs fonctions. Qui juge les juges?
Ben, il n'y a personne qui juge les juges. Ça, c'est le concept, là. C'est le concept. Donc, pour que les juges aient... en principe, une grande indépendance. C'est ça, ils ont beaucoup de liberté. Bon, c'est pas vrai, là. Il y a un conseil de la magistrature là, qui chapeaute hein, les juges. Mais non, l'idée, le concept, c'est que les juges ont pleine liberté. Là, je parle du principe, évidemment, là, ont pleine liberté pour rendre des décisions selon leur meilleur jugement. Ils ne doivent pas subir d'influence politique ou quoi que ce soit. Leur emploi est garanti. Hein? Donc, quand on est nommé juge, on ne doit pas avoir la peur de se retrouver au chômage si on prend une mauvaise décision. Donc, on est nommé, en principe, là, jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite ou qu'on choisisse de quitter. Justement, ça me permet de faire un commentaire sur le Conseil de la magistrature. Qui est supposé de dans des bon, le conseil de la magistrature c'est pas le juge a rendu une mauvaise décision on va renverser sa décision. Le conseil de la magistrature c'est un juge commet quelque chose de très très grave là, je sais pas n'importe quoi de très très grave qui porte atteinte à toute l'institution. Mais là il faut qu'il y ait une institution qui permette de le réprimander ou de le tasser là si c'est vraiment quelque chose de grave. Ça c'est le conseil de la magistrature.
C'est plus si un scandale
éclate au
sujet. Si un juge a un scandale, c'est pas une décision qu'il a prise en tant que juge.
Exactement.
C'est vraiment c'est pour
exactement,
pour sauver les apparences.
Oui, bon, puis là, je veux pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où une décision était tellement extrêmement mal fondée? Je le sais pas, là. Je voudrais pas rentrer dans les détails, mais pour faire une parenthèse à propos du Conseil canadien de la magistrature, j'ai été le signataire d'une lettre. Je ne veux pas me donner trop de mérite, là, c'est pas moi qui l'ai écrite, cette lettre-là. Mais il y a une lettre qui avait été envoyée, en fait, une plainte qui avait été faite à l'époque. Là, je crois qu'on était en 2022, c'était après l'épisode des camionneurs à Ottawa.
Okay.
Donc là, le juge en chef du Canada avait fait, le juge Wagner, avait fait des commentaires publiquement. Des commentaires là, devant les médias, hein, je ne me souviens plus c'était quel média, mais il avait fait des commentaires à l'effet que la manifestation des camionneurs, ça représentait un danger grave pour notre démocratie. Il avait fait certains commentaires. Et normalement, les juges ont un devoir de réserve. C'est-à-dire qu'ils doivent normalement, ils doivent pas se prononcer publiquement là, sur des enjeux comme ça parce que. Et pourquoi ils doivent pas se prononcer? C'est que c'était tout à fait possible. Même très probable qu'il y allait avoir des recours judiciaires en lien avec cette manifestation-là. Et d'ailleurs, il y en a eu. Il y en a qui ont contesté là, l'état d'urgence. Oui, c'est ça, que le fait qu'il y avait une justification ou pas à la déclaration là, de l'état d'urgence là, par le gouvernement fédéral. Donc, à ce moment-là, c'est ça, il y a des avocats qui se sont dit, et je crois qu'il y avait même une ex-juge là, parmi les signataires, qui se sont dit, bon, on va écrire une plainte au Conseil canadien de la magistrature pour que le juge Wagner soit réprimandé là, pour sa prise de position, ben, en fait, pour ses commentaires là, publics devant les médias en lien avec un événement qui était en cours puis qui allait potentiellement se retrouver devant les tribunaux. Bon, mais vous savez, c'était qui le chef du Conseil canadien de la magistrature? C'était le juge Wagner. Donc j'ai été un des signataires d'une lettre adressée, d'une plainte adressée au Conseil canadien de la magistrature pour leur demander d'enquêter sur les commentaires publics du juge Wagner. Et cette plainte-là Elle a été rejetée aussi, devinez comment, elle a été rejetée sommairement. Donc, on a reçu un courriel d'une fonctionnaire là, qui nous a dit « Votre plainte, elle n'est pas recevable. » Et bon, je pense que ça avait fait l'objet d'un article dans le Epoch Time à l'époque. Là. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui en a parlé, évidemment. Là. Donc voilà, donc qui juge les juges? Ben, en principe, il y a le conseil de la magistrature qui peut intervenir dans certains cas, mais non, normalement, les juges ne sont pas jugés parce qu'ils sont indépendants, c'est ça le concept.
Et là, comme ils sont actuellement ces juges qui sont supposés être complètement indépendants, participent d'un enjeu politique, en quelque sorte. Donc, c'est ça le problème. C'est ça, vraiment, c'est un grave problème. Ils sont dans un enjeu politique, ils participent à cet enjeu-là, ils mettent pas en cause ce qui se passe, les crimes sont commis.
Est-ce qu'on peut croire à de la naïveté ou si on doit utiliser le terme de corruption?
Ouais, est-ce que c'est possible que les juges, que c'est de la suivant soumission? Leur formation, au fond, suivant leurs années d'exercice de la profession, hein, quand même, c'est intellectuellement exigeant, peuvent vraiment ignorer les aspects de la situation, les aspects ambigus de la situation actuelle?
Ben, écoutez, je pense qu'on a affaire à une corruption que j'appellerais systémique. Puis comme j'ai dit là, dans d'autres entrevues, évidemment que moi, j'ai aucune preuve hein, de corruption de juge, de corruption de fonctionnaire.
Ah,
donc, on peut juste spéculer, mais quand on regarde que les tribunaux partout dans le monde ont tous embarqué, il n'y a personne qui remet en question le fait qu'il y ait eu une menace grave, il n'y a personne qui remet en question la sécurité supposée des injections. On peut dire qu'il y a anguille sous roche, là. Puis il y a, selon moi, une corruption, c'est ça, systémique, plus dans le sens où, ben, premièrement, pour être nommé juge, hein, il faut avoir travaillé au moins pendant 10 ans comme avocat, il faut avoir une profession qui est extrêmement hiérarchisée, où on nous inculque le respect de la hiérarchie, où on nous inculque le respect de l'autorité. Pour être nommé juge, évidemment qu'il faut avoir... puis qui nomme les juges? Mais ça, évidemment, c'est le gouvernement. C'est au Québec... Au Canada, les juges ne sont pas élus. Donc, il faut avoir obtenu les... il faut obtenir les... en fait, il faut... voilà, il faut avoir été...
Il faut avoir des bons contacts.
Voilà. Ben oui, parce que c'est le gouvernement qui va nommer les juges. Ça, c'est des trucs systémiques. Est-ce qu'on peut parler de corruption? Peut-être.
En tout cas, on peut parler d'un problème de choix des juges. Lorsque tu choisis un juge, c'est pas forcément un choix objectif, surtout de la part d'un gouvernement qui a des visées, qui pourrait avoir des visées. À ce moment-là, il peut choisir les juges qui lui conviennent en fonction de ses buts.
Oui, évidemment. Puis on a vu des gens qui ont eu des promotions. Là. J'en glisse un mot dans ma lettre. Les gens qui ont suivi le courant, les gens qui n'ont pas remis en question, les gens qui ont obéi. Ben, je vous donne un exemple. Bon, en tout cas, je ne dirais peut-être pas de nom, là, mais si on parle des professionnels, les conseils de discipline, donc les présidents des conseils de discipline, c'est comme ça qu'on les appelle, sont nommés par le gouvernement, évidemment, mais comme les juges. Et ces présidents-là de conseils de discipline, ceux qui jugent dans les professionnels, comme on parlait tout à l'heure du professeur Linard, qui était professionnel parce qu'il faisait partie de l'ordre des chimistes. On parle de Sébastien Cormier, qui est toujours infirmier auxiliaire. On parle de plein d'autres professionnels qui ont été jugés par un conseil de discipline qui est présidé par, évidemment, un président, donc nommé par le gouvernement. Mais ces présidents-là ont un président en chef, à l'époque une présidente en chef. Je ne sais pas qui occupe ce rôle-là maintenant. Mais il y a une de ces présidentes-là qui a eu une promotion. On peut se demander. Une promotion au sein du gouvernement, là, donc dans le très haut fonctionnariat québécois. Encore là, je ne porte pas d'accusation, je fais juste... je ne donne même pas de nom, mais c'est quelque chose que j'ai observé. Est-ce qu'on peut penser est-ce qu'on a encore le droit de discuter, hein? Est-ce que, ben, je suis pas sûr, mais est-ce qu'on peut penser que cette personne-là a été promue pour avoir accompli une mission?
Je pose la question
tout simplement. Est-ce qu'une présidente de conseil de discipline nouvellement nommée, alors là, je donne pas de nom, est-ce qu'une présidente nouvellement nommée par le gouvernement, je le répète, est-ce qu'elle n'a pas une certaine pression, peut-être juste institutionnelle? Encore là, j'ai aucune preuve, peut-être pas des pressions directes, mais une genre de pression institutionnelle pour ne pas contredire les décisions qui ont été rendues précédemment par les autres présidents, présidents de conseils de discipline. C'est une forme de c'est une pression systémique. Je dis pas que chaque personne a reçu des pots de vin ou quoi que ce soit. En fait, je dis que personne n'a reçu des pots de vin. Je dis rien par rapport à ça, mais c'est peut-être juste une... C'est ça, le système qui fait en sorte que tout ça se produit. Puis en passant, moi, je pense que la plupart des gens ont un excellent fond. Je pense que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont des très bonnes personnes qui ont été malheureusement influencées par les médias, par toutes sortes de pressions, par un système. Mais je pense qu'au fond, ces personnes-là sont pour la plupart, des bonnes personnes. Ouais.
Ils ne sont pas mal intentionnés.
Je pense.
Mais jusqu'où, c'est justement, et c'est une question qui revient toujours hein, dans le débat, ce que je vais dire là, c'est jusqu'où on doit être solidaire avec l'injustice, pourrait-on dire, ou en tout cas la corruption, jusqu'où on doit être solidaire avec un système qui devient de plus en plus autoritaire pour protéger son emploi, pour protéger sa situation, jusqu'où ça peut être considéré comme anodin hein, ou sans excusable. Mais à un moment donné, si c'est toujours excusable, on va se ramasser dans une dictature absolue.
Bien, évidemment, comme vous savez, moi, j'ai fait mon choix.
Oui, c'est ce que donc, je constate. Donc, là.
Donc moi, je renonce à une profession, je renonce à des années d'études, des années de pratique. Mais bon, soyez pas triste pour moi. Hein. Je suis content. Ces années-là d'études, de pratiques m'ont permis de comprendre la société dans laquelle on vit. Et au départ, quand j'ai choisi d'étudier le droit, un de mes objectifs, c'était de comprendre la société. Parce que je me rendais compte déjà que le droit était omniprésent, que si je voulais comprendre la société, peut-être que des études en droit allaient me permettre de mieux comprendre. Eh bien, j'en ai eu pour mon argent, là, à ce niveau-là. donc maintenant, j'ai l'impression d'avoir une meilleure compréhension de la société. Bon, malheureusement, les conclusions auxquelles j'arrive sont pas très joyeuses. Hein, on voit que tout ce beau monde-là est au service du pouvoir, puis que ce pouvoir-là, il ne nous veut pas que du bien, comme je l'ai écrit dans ma lettre.
Ouais. Donc, mais justement, la question, c'est un peu... Jusqu'où? Tu sais, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite?
Moi, j'ai franchi. Ma limite a été franchise. Chacun a sa propre limite.
Mais la limite jusqu'à temps que ça devienne la corruption. Tu sais, à un moment donné, si tu as conscience d'un problème, tu maintiens, tu continues. Est-ce qu'à une certaine limite, à un moment donné, c'est pas une participation active?
Ben, dans ma lettre, je parle de complicité. Je pense qu'à un moment donné, il y a un autre concept qu'on utilise souvent en droit, hein, qui est l'aveuglement volontaire. L'aveuglement volontaire, c'est jamais une excuse. Si on est accusé d'un crime, ben, on ne peut pas utiliser comme moyen de défense « Non, je n'avais pas vu, je n'avais pas entendu, j'avais pas... » Ben non, l'aveuglement volontaire, c'est pas une excuse. À partir de quel moment... C'est quoi les limites entre l'aveuglement volontaire, la participation active, tout ça c'est flou. Mais oui, je suis d'accord que...
Mais ça existe, en tout cas. Si la barrière est floue, la barrière existe. La ligne existe. Oui. C'est la ligne rouge, là. Elle existe.
Tout à fait.
Elle ne peut pas être niée, cette ligne-là. C'est la même chose pour les juges, c'est la même chose pour les médecins, à mon avis.
Surtout devant la dimension du crime.
Parce que c'était si anodin, il n'y aurait pas de problème. Là. C'était bon, ils ont ramassé un peu de. Bon, un petit peu d'avantage social là, un peu ci. Mais là, ici, on parle quand même d'une possibilité de génocide. Là. On parle de, on parle de quelque chose de très sérieux.
Mm. Ouais, je suis d'accord avec vous.
C'est le moment de poser des questions.
C'est, oui,
les gens qui sont responsables devraient poser des questions. L'argument de dire que c'est un état d'urgence, il ne faut pas poser de questions. C'est le contraire que tu devrais faire quand c'est un état d'urgence.
Oui, exactement.
Je pense que cet argument-là peut être invoqué assez vite, le règlement volontaire. Puis je pense que même la population générale, c'est plus commode de s'aveugler que de s'ouvrir à la réalité que ah, le gouvernement, finalement, ne veut pas que notre bien. Ou il y aurait du monde qui serait mal intentionné. Eh oui. Ils veulent pas le voir.
Oui, c'est ça.
Et de façon très organisée, hein, de façon très, très, très,
très organisée. Très, très organisée, là. C'est ça. C'est pas
quelque chose d'aléatoire. Ah, ben, tout à coup, ils ont décidé de faire ça aujourd'hui.
Ben, en tout cas, juste un détail, c'est certain qu'on voit qu'il y a une structure, là. McKinsey a été engagé par tout l'Occident, pour ainsi dire. Hein. En France, ici, aux États-Unis, ça fait qu'on voit qu'il y a un planning, là. C'est incontestable.
Mais comme tu dis, ça remonte tous les chemins, puis tu fais toutes les hypothèses. C'est la finance. C'est la finance qui dirige.
Dirige le processus.
C'est encore flou quand tu dis la finance.
Ils ont le moyen.
C'est les intérêts financiers.
Ils ont le moyen de leurs actions. Ils ont le mobile et les moyens de leur action.
En tout cas, on peut dire que l'aveuglement volontaire chez les juges, c'est pas vraiment approprié.
Oui, puis on peut se demander, est-ce que c'est vraiment un aveuglement? Oui, on peut se demander, OK, c'est un aveuglement volontaire. Pour moi, c'est un aveuglement volontaire. C'est pour ça que je disais, avec quelqu'un qui doit s'exercer intellectuellement toujours dans ce domaine judiciaire-là, tout au long de son existence, après 10 ans de pratique, et là, après... À mon avis, ça ressemble à de l'aveuglement volontaire. Voilà.
On a parlé de 1000 grammes. Okay, pas je perds mon fil. On a parlé des deux professionnels qui se contredisent, puis là que les gens se remettent en question. On a eu des gens dissidents en sciences, en droit, en médecine. Une chance qu'on a réussi à les voir. Parce que si on n'avait pas eu, vous autres, les dissidents, on aurait été mal pris, là. Qu'est-ce qu'on aurait eu? On n'aurait pas pu faire autre chose qu'obéir ou bien passer pour des fous complets. Une chance qu'ils sont là. Là maintenant qu'on le sait que la justice ne peut pas défendre la vérité, pour toi, c'est quoi l'alternative? C'est vers quoi on va? Si on ne peut plus demander à la justice de jeter la lumière sur les mensonges, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse, nous autres, en tant que dissidents? C'est parce que, je veux dire, je te pose la question. Je te laisse aller. C'est quoi la suite?
tu me poses une très bonne question, Nicolas. Je vais prendre une gorgée d'eau. Tu me poses une très bonne question, puis c'est une question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je ne dis pas à tout le monde, faites comme moi. Là. Faites ce que vous voulez. Hein. Faites pas. C'est ça mon message. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est pour la liberté, vraiment fondamentalement pour la liberté de choix de chacun. S'il y en a qui veulent continuer dans leurs emplois pour toutes sortes de raisons, c'est pas à moi de les juger. Mais moi, je pense que ma démarche de démission du barreau, par exemple, c'est de dire, ben moi, je ne vous donne plus mon argent, je ne vous donne plus mon...
soutien.
Je ne vous donne plus mon soutien, je ne vous donne plus la permission de contrôler ce que je fais. Donc, je retire mon consentement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je retire mon consentement. Parce que tout est basé sur le consentement.
Absolument.
On se le demande, hein?
Absolument.
On se le demande.
Tout est basé sur le consentement. Donc, on ne s'est pas fait. Ceux qui sont allés se faire injecter, là.
Il n'était pas au bout du fusil, hein. Il n'y a personne qui a été amené à l'injection au bout du fusil. Il y a eu des pressions sur l'emploi, mais bon, à part ça, non.
Exactement. Donc, les gens ont fini par consentir parce qu'on les a forcés. Donc, c'était pas un consentement, évidemment, qui était libre et éclairé. Hein? C'était tout le contraire. Mm-hmm. C'était un consentement qui était forcé sous la coercition. C'était très malhonnête.
Forcé oui. et instrumentalisé. Parce que oui. les gens ont participé de très bonne foi également à ce processus-là, en ayant le sentiment qu'ils faisaient la bonne chose.
C'est purement machiavélique. C'est purement machiavélique. Donc moi, c'est ça, qu'est-ce que je prône? Moi, je dis qu'il faut retirer notre consentement. Il ne faut pas donner de pouvoir à ces institutions-là. Puis comme je dis, je n'appelle pas à la révolution, là. Mais... Parce que, ouais...
C'est important de le dire.
Ben, c'est que ça, si on comprend que c'est... que le gouvernement s'attend à un consentement, qu'il le fait pour obtenir un consentement, oui. Évidemment, ça aide à prendre des décisions éventuellement. Là.
Oui, donc si on retire notre consentement, si les médecins, par exemple, se disent, ben moi, là, je me rends compte que ma profession... Oui, la profession est utile. Là. Si je me casse une jambe, je vais sûrement aller à l'hôpital. Mais pour tout ce qui est des maladies chroniques, tout ce qui est des... est-ce que vraiment, là... est-ce que vraiment la profession médicale est là pour servir les intérêts de la population? J'ai des gros doutes.
Oui,
donc, si par exemple, il y avait des médecins qui disaient, ben regardez, là, moi, je suis tanné. Le Collège des médecins, il n'a jamais voulu nous entendre. On lui a écrit des tonnes de lettres. Il n'a jamais voulu nous entendre. Il ne va jamais vouloir se remettre en question. Il est là pour servir d'autres intérêts. Ben, à un moment donné, si les gens se mettent à débarquer puis qu'ils se mettent à soigner des gens, là... parce que c'est leur devoir de soigner des gens, ils ont les connaissances, ils ont les outils. Je veux dire, les institutions, à un moment donné, si on leur enlève le pouvoir, si on retire notre consentement, ces institutions-là ben, vont disparaître. Mmh. Moi, j'appelle, c'est ça, j'appelle finalement une... puis j'appelle à la non-violence aussi, dans les pas de...
Ah, non, c'est
de,
utile.
Dans les pas de Gandhi et des autres. C'est ça, donc la non-violence, puis de juste retirer notre consentement. Puis le jour où ces autorités-là auront plus de soutien, auront plus notre consentement, mais vont simplement disparaître sans violence. C'est un peu comme ça que je vois les choses.
Mais ça donne pas un peu le vertige, je dis, si on a plus, on donne plus notre consentement au système de justice, au système de santé, au système d'éducation, name it. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Je dis, si on fait-tu une croix sur tout ça? Je dis, quand je vais à l'urgence, parce que je me suis cassé une jambe, je consens-tu à la domination médicale?
Je pense pas. Dans le cas d'une urgence comme ça, je croirais pas. Le fait que, qu'on se retire du système en quelque sorte, c'est de trouver un moyen de se retirer de ces institutions-là qui sont formatées pour obtenir un certain résultat. Le fait de se retirer leur retire évidemment. Donc ça suppose une sorte d'autonomie qui doit être acquise par les gens.
Des alternatives
puis une autonomie. Une autonomie au niveau de la santé, une autonomie au niveau de la nourriture. C'est ça, sinon on reste accroché au biberon, pour ainsi dire.
C'est pas une responsabilisation, mais pas juste individuelle. On peut pas, c'est ce genre de service de santé ou de justice qu'on peut pas avoir tout seul. C'est des institutions collectives. Il faut qu'il y ait, si on peut plus faire confiance au système, mais faut-tu en créer un autre? La question que je pose, comment?
Comment oui, c'est pas papier.
J'ai pas
l'avenir. Écoutez, j'ai pas toutes les réponses. Hein. J'ai plus de questions que de réponses. Donc, tu sais, c'est ça. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut avoir un système parallèle, ben, ce dont on se rend compte, c'est que c'est extrêmement difficile. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait, les gens qui critiquent le système? Ben, on donne des conférences, on fait des Zooms, on fait des. Mais on se rend compte que c'est extrêmement difficile de s'entraider, de faire du troc, c'est extrêmement difficile, donc je le sais pas vraiment plus que vous. Moi, je pense peut-être en commençant petit, en s'entraidant entre amis, entre familles, en prenant soin de nos aînés, de nos enfants, on fait déjà un bout du chemin. parce que ça ne sera pas du jour au lendemain.
C'est ça.
Comme je vous dis, je vais y aller à l'hôpital là, si je me casse une jambe. Mm-hmm. À moins que je trouve un chirurgien qui va me faire ça dans son sous-sol, là, mais je ne sais pas si ça existe.
Apparemment, non.
Non, c'est ça, je pense que c'est au cas par cas. Il y a beaucoup de consentement à retirer. Il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense qu'on a énormément de pain sur la planche.
Oui.
En tant que société, par rapport à tout ce qui est arrivé. Il y a quand même une inflexion, là, parce que je veux dire, tout ce qu'on a fait depuis le début, depuis 2020, c'est essayer de trouver un chemin pour trouver la justice dans le système de justice, pour rétablir les faits là où ils doivent être faits pour que le système continue de fonctionner.
Oui.
Que le gouvernement continue de fonctionner, pour qu'on puisse continuer à avoir confiance dans nos institutions. Puis tout ça nous est retiré, nous est interdit. Mm-hmm. Fait que quand même, ce que tu fais, ta lettre est importante. Parce que on arrive à un point d'inflexion, on dit on ne peut pas sauver le système. Mm-hmm. On ne peut pas le rendre bon, on ne peut pas le réformer. On ne peut pas rétablir la justice. Et je pense qu'on est en train de vivre cette année, maintenant, un point d'inflexion important dans le combat social pour la justice et la vérité. Ces questions-là, je pense que c'est important de les poser.
Oui, oui, puis ça donne, effectivement, ça donne le vertige. Et je pense qu'il y a plusieurs médecins, scientifiques, avocats qui disent, bon, il faut combattre le système de l'intérieur. Moi, ma conclusion, c'est que non, on ne peut pas réformer le système de l'intérieur, c'est aller beaucoup trop loin. Après ça, si les gens le font pour attirer l'attention du public sur certains problèmes, oui, pourquoi pas, mais et moi-même, hein, j'ai voulu y croire, j'ai voulu m'impliquer. Ça donne le vertige, effectivement. Ouais.
Ben écoute...
Tu peux finir ça sur une note un peu plus...
oui, mais moi, je ne suis pas désespéré non plus. Hein.
Oui, mais il vaut mieux que de ne pas voir.
Oui, ouais. Certainement. Et je pense qu'il y a quand même un accès... On peut penser qu'il y a un effet de conscientisation à travers tout ce processus-là. Je pense que il faut justement qu'on se détache.
Il y a
une prise de conscience de quelque chose qui est là. Et c'est un apport positif.
Ben oui, c'est oui, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Donc, moi, je suis conscient là, que c'était un peu, peu glou.
Parce qu'on on semble un peu sombre, là, mais c'est pas vraiment.
Parce que comme ils disent en anglais, là, on préfère je préfère un ugly truth, donc une vérité
horrible
à un beautiful lie, à un beau mensonge.
Oui,
donc là, le mensonge est exposé. Mm. On vivait avant ça dans un mensonge, on avait un certain confort. Et là, oui, c'est inconfortable. Mm. C'est inconfortable parce que là, la vérité nous apparaît. Et là,
c'est les conséquences de ça. Oui,
mais c'est ça. Mais le encore là, les mots en anglais me viennent. Là, the best is yet to come. C'est ce qui va venir après ça, ça va être mieux. Mm-hmm. Parce que ce qui existait avant, c'était du mensonge. Mm-hmm. Donc, quand on va être dans la vérité, forcément que ça va être mieux. Mais oui, il va y avoir des tiraillements. Mm-hmm. Mais j'ai confiance en l'avenir. Et puis, je pense que le meilleur est à venir.
Ouais. Oui, exactement. Et nous aussi, on le pense.
Puis il y a le fait aussi, mm-hmm. Je pense qu'on vivait dans une espèce de bulle. On croyait, nous autres, en Occident, que la vie était belle pour tout le monde. Mm-hmm. Mais comme je disais, la misère n'a jamais arrêté dans le reste du monde. C'est lié. C'est la même business, c'est la même industrie, c'est la même finance. Mm-hmm. Donc, fait qu'on nous maintenait dans le confort tant qu'on avait le moyen de le faire, puis dans l'illusion que tout allait bien. Mais je pense que c'est sûr, on va. Il y a une alternative à tout ce monde de misère, de guerre, d'exploitation, de vente à pression, de médicaments qui...
En tout cas, on va certainement... On pourrait peut-être considérer qu'on est en transition actuellement vers quelque chose de mieux. Et c'est forcément mieux parce que un mensonge continuel et une prise autoritaire qui devient de plus en plus forte, ça ne peut pas être mieux que la vérité. Ça peut être juste pire. Parce que les conséquences sont trop graves.
Alors, merci encore
merci,
d'avoir,
oui.
d'avoir été.
Hey, ben, merci, merci à toi, Louis-Olivier.
Oui,
oui.
Oui, ben, merci pour ton courage, pour tes efforts. Écoute, on a suivi
on
ça d'un petit peu loin. Mais,
de toute façon. Hein.
On sait bien qu'à un moment donné, ça prend du courage pour vivre toutes ces choses-là, puis pour prendre des décisions que tu as prises, nous.
Merci de ton implication avec Réinfo Québec, qui sont
oui.
la crème de la crème de
oui.
la
oui, puis pour
la
ton intelligente. Ton rôle aussi là, dans la commission citoyenne, là, dans d'enquête citoyenne. Ouais. Ça a été oui. très important aussi, parce que ça a rassemblé un grand nombre de témoignages.
Mais oui, puis allez voir ça, ceux qui l'ont pas vu, hein, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise-là. Vous avez des heures et des heures et des heures de témoignages auxquels vous avez accès, puis vous allez voir qu'il y a plein de gens qui contestaient la version officielle, c'est juste que vous les avez pas entendus.
Parce que la version officielle, ouais. c'est que personne ne conteste la version officielle.
Oui. Il n'existe pas de dissidence, il n'existe pas d'opinion différente.
En fait, on a c'est ça plus nombreux. Que
c'est ça qui essaie de faire croire.
On ne voudrait qu'on le croie, c'est ça.
Oui, ben, merci encore.
Hey, ben, merci à toi. Puis, on te souhaite bonne route. Hein?
Oui, puis de toute façon, on va certainement se reparler bientôt.
On va se tenir au courant, puis tu as des projets
avec...
de sous-savoir.
Avec plaisir. Donc,
merci de m'avoir reçu.
Merci de m'avoir reçu, puis à une prochaine fois.
Salut, vous, Olivier.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love? One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the world. World, yeah. We only got one world, one world. That's all we got. One.